Bonjour à tous. En ce début de rencontre, je souhaite vous rappeler le thème « Les religions au féminin, un combat, un engagement, une sororité ». Alors quand Patricia m'a demandé de m'associer à cette rencontre et de l'aider à la préparer, j'ai été extrêmement enthousiaste. Enthousiaste parce qu'enfin, on considère le fait religieux comme un fait de société et que pouvoir en traiter, en parler, échanger dans un cadre public, laïque donc, me paraît tout à fait intéressant. En effet, la laïcité, on le sait, a engendré tellement de débats et est encore l'objet de tant de controverses. Au départ, on sait qu'elle s'est imposée, avec la loi de 1905, contre les religions en place et que donc elle considérait que les religions étaient réservées à l'espace privé. Les choses ont évolué. Si les pratiques religieuses sont toujours réservées à la sphère privée, le fait religieux est un fait de société. Et donc pouvoir en parler dans un cadre laïque est particulièrement réjouissant. Alors je voudrais à ce propos, vous relire la définition qu'a donnée Delphine Horviller de la laïcité, et je crois qu'elle est tout à fait intéressante et que nous sommes là dans le cœur du sujet. Alors, je vous la lis. La laïcité française n'oppose pas la loi à l'incroyance. Elle ne sépare pas ceux qui croient que Dieu veille et ceux qui croient aussi ferme qu'il est mort ou inventé. Elle n'a rien à voir avec tout cela. Elle n'est fondée ni sur la conviction que le ciel est vide, ni sur celle qu'il est habité, mais sur la défense d'une terre jamais pleine, la conscience qu'il y reste toujours une place pour une croyance qui n'est pas la nôtre. La laïcité dit que l'espace de nos vies n'est jamais saturé de convictions, et elle garantit toujours une place laissée vide de certitude. Elle empêche une foi ou une appartenance de saturer tout l'espace. À sa manière, la laïcité est une transcendance. Elle affirme qu'il existe toujours en elle un territoire plus grand que ma croyance qui peut accueillir celle d'un autre venu y respirer. Nous voilà tout à fait dans le sujet de notre rencontre, dont l'objectif est de mieux se connaître. Quand on parle de religion, il y a normalement deux acceptions sur l'étymologie de ce terme. La première vient de religere, relire, qui veut dire relire et qui renvoie au texte, à l'interprétation du texte. Et je crois que nous verrons à quel point c'est important ici dans les propos qui vont être échangés. La deuxième source étymologique est religare, relier. Nous sommes bien là-dedans, dans le cadre d'une fraternité, inscrite donc sur le fronton de nos mairies. Et là, donc, Journée internationale des droits des femmes. Quatre femmes sont là pour parler de leur façon d'être et de leur engagement de leur religion. Nous y préférerons le terme de sororité. Donc ce débat doit se faire en dehors de toute polémique, dans le respect des uns et des autres. Voilà, bien, je vous souhaite une bonne rencontre. Je propose donc de vous manifester si vous avez des remarques à faire, des questions à poser à l'une ou à l'autre. Voilà. Donc, on va faire circuler le micro. On va tenter de faire circuler le micro. Qui souhaiterait intervenir, poser des questions ou...
Je voulais reposer une question à propos de l'interprétation des textes. Comment on peut dire maintenant, c'est la bonne interprétation, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Est-ce que c'est possible ça, ou est-ce que... Qui a raison? Quelle est la bonne interprétation?
Moi, il me semble qu'on ne peut pas dire c'est la bonne interprétation. En revanche, un texte, il a quand même une certaine rigueur. Donc, un texte, vous pouvez pas le tordre dans tous les sens si vous faites un tout petit peu d'analyse littérale. Hein. Donc, il y a l'histoire de la rédaction, c'est-à-dire comment il a été écrit, par qui, quelles étaient les représentations des gens à cette époque-là, que signifiaient ces mots pour eux à ce moment-là. Quand vous imaginez, par exemple, que dans la Bible, les gens s'imaginaient que la terre était plate, qu'il y avait un ciel au-dessus, un enfer en dessous. Enfin, et donc, du coup, il faut comprendre quelles sont ces images pour eux. Et puis ensuite, dès quand vous avez un texte, parce que souvent on les tire dans un sens, mais quelquefois on leur fait dire le contraire de ce qu'ils disent. Alors déjà ça, c'est pas. Après, les interprétations peuvent être multiples. Ce qui importe, c'est qu'elles soient rigoureuses. C'est-à-dire que vous pouvez dire que vous découvrez telle ou telle chose dans tel texte. Vous pouvez pas dire on doit comprendre ça comme ça. Enfin, ça on n'y est plus quoi. Et vraiment, l'acceptation littérale de « c'est comme ça et c'est Dieu qui a parlé comme ça », ça c'est faux, quoi. Enfin, c'est faux. Alors il y a bien des gens qui pensent qu'on sait comment Dieu parle, mais non, Dieu... non, ça, on a beau dire que c'est Dieu qui le dit, même dans la Bible, bah, c'est des gens qui disent et qui écrivent que Dieu a dit, c'est eux qui témoignent de quelque chose, on n'a pas accès aux faits. On n'a pas accès à ce qui s'est passé. Jamais.
Nous, on a vraiment un problème de traduction. Hein, le sens en arabe, quand on lit, moi, j'ai ce problème quand je le comprends en arabe. Mais en français, quand je le lis, ça ne veut pas dire la même chose. C'est traduit littéralement. Littéralement, il y a des mots qui... Mais le sens ne représente rien du tout. Et c'est là où il y a un travail. Peut-être prendre le texte en arabe, mais voir dans le sens. Qu'est-ce que Dieu voulait dire avec tout ça hein? C'est avec je vous donne juste un exemple. En arabe... On dit « asakan ». « Asakan », c'est le cocon, l'habitation et tout, entre les poux. Et on peut trouver plein de mots. Mais le vrai mot, le sens de ce mot qui est marqué, qui ne représente pas du tout hein, le cocon, le bien-être, parce que vous êtes un vêtement pour... L'homme est un vêtement pour la femme et la femme est un vêtement pour l'homme. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens de ce vêtement? Vous voyez? C'est pas l'habit, mais il a un sens très large. C'est qu'est-ce qu'il voulait dire Dieu par ce vêtement? Et c'est plein de versets comme ça qui ont un sens. Il faut trouver. Et ça, c'est en améliorant la connaissance et puis avoir ce regard plus féminin et masculin. Parce qu'aujourd'hui, juste l'interprétation, la traduction, elle était faite par des hommes, très peu de femmes, ils étaient impliqués. Mais aujourd'hui, on a besoin justement de ce regard de femme pour trouver le sens. Qu'est-ce que Dieu il a voulu dire par le vêtement? C'est quoi ce sens de vêtement?
Mais ce que tu dis, Fatia, de la difficulté de traduire la polysémie d'un mot en langue arabe se retrouve
je coupe des lignes, mais parce que je vous rappelle que l'hébreu, qui est l'Ancien Testament, la langue originelle, l'hébreu s'écrit uniquement avec des consonnes. Donc vous avez des mots. Si vous mettez certaines voyelles, ça veut dire quelque chose. Si vous mettez d'autres voyelles, ça veut dire autre chose. Et effectivement, on ne peut pas interpréter définitivement. Par contre, on peut chercher entre les différentes possibilités. Qu'est-ce qu'on en comprend? Je vous donne un exemple qui est donné par Delphine Horviller. Les voyelles, les consonnes D, V et R. Ça donne davar. Alors, davar, moi, je le connais dans l'hébreu courant actuel, c'est la chose. Mais dans l'hébreu biblique, c'est la parole. Dever, si on change les voyelles, c'est la peste. Et Dvora, c'est l'abeille. OK ? Quel est le lien entre les trois ? L'hypothèse qui est faite, c'est la propagation. Propagation de la parole, propagation de la peste, propagation du pollen à travers les abeilles. Voilà. Ça, c'est un travail d'interprétation. On va aller chercher qu'est-ce que ça signifie si c'est d'avers, qu'est-ce que ça signifie si c'est d'avare, qu'est-ce que ça signifie si c'est d'ora. Donc ça, c'est déjà le travail d'interprétation, juste sur l'hébreu, avec ces consonnes sans voyelles. Parce que dans le rouleau, il n'y a pas les voyelles. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est très difficile d'y lire. Et je vous rappelle que ce texte hébreu, il a été traduit d'abord en grec, puis ensuite en latin, et parfois en français ou dans d'autres langues. Et on le sait, toute traduction est une perte de la polysémie. À chaque fois, le traducteur est obligé de faire un choix. Je vous donne un autre exemple par rapport à ça. Il y a une traduction qui tente effectivement d'être très proche des mots originels et qui dénomme en français, hein, une traduction de la Bible en français par Chouraki, si je ne me trompe pas, qui dénomme Adam le glébeux.
Et oui.
Parce que Adama, c'est la terre. Hein, Adam, Adama, c'est la terre, la glaise. Hein, et que voilà, il y a un lien entre la glèbe, donc le glébeux. Bon, voilà. Sauf que quand nous on lit le glébeux, ça fait bizarre. Hein, c'est plus tout à fait ce qu'on a l'habitude de lire. Hein, voilà. Et à chaque fois, effectivement, le traducteur est choisi un sens unique parmi les multiples sens qui existent. Hein. Et ce travail d'interprétation, c'est revenir à ça effectivement et venir interroger qu'est-ce que ça vient nous dire, qu'est-ce que ça nous permet de penser, parce que c'est à nous de penser aujourd'hui à partir de ces textes. C'est pas ces textes pensent pour nous.
Peut-être aussi.
Bon, je voudrais juste compléter.
Ne sois pas trop longue, Joëlle, pour que les gens puissent intervenir.
Je vais pas être trop longue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible est une véritable bibliothèque avec des livres qui sont très différents les uns des autres. Il y a des livres historiques, il y a des livres poétiques, il y a des livres prophétiques, il y a les évangiles, il y a des lettres, des écrits, etc. Donc on peut pas interpréter tout de la même façon. Évidemment, et vous avez très bien parlé de la polysémie, des difficultés de traduction, etc. Mais en même temps, la Bible, pourquoi est-ce qu'on la lit, ou le Coran, c'est que ça devient parole de vie pour nous. Et comment ça peut devenir parole de vie pour nous? C'est un petit peu comme quand vous lisez un poème, vous pouvez être sensible aux mots que ce poème véhicule et vous l'approprier dans votre vie aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une interprétation véritable qui serait voilà. Ça, ce sont les fondamentalistes qui font cette erreur là et qui prennent la Bible au mot à la lettre, alors que c'est pas possible de le voir comme ça. Voilà, c'est tout.
Merci. D'autres questions?
Ils ont bien répondu, ça.
Merci. Par rapport justement à la difficulté d'interprétation.
Vous entendez au fond.
Par rapport à la difficulté que posent les interprétations des textes, moi, ce qui m'interroge, je ne suis d'aucune religion, mais ce qui m'interroge, c'est la façon dont les religions ont évolué. Dans toutes les religions, à l'heure actuelle, il y a des courants orthodoxes et des courants, on va dire, plus libéraux. Mais je suis obligée de remarquer que si nous parlons de la religion musulmane, par exemple, le courant orthodoxe dans le monde me semble quand même assez important, parce que ce qui se passe en Afghanistan et en Iran, ou même en France dans les relations hommes-femmes, dans ce que vous dites, moi j'ai trouvé ça merveilleux, mais je me demande si ce merveilleux, il existe un peu beaucoup ou s'il est tout petit, si je peux me permettre.
C'est vrai que l'islam orthodoxe, déjà en Iran, c'est les chiites, hein, c'est pas la sunnite, il y a les sunnites et il y a les chiites. Il faut faire la distinction. On a vu par rapport à à la femme qui a enlevé son voile et qui était et ça c'est un drame, hein, c'est un drame. Quand on parle d'Iran, on ne parle pas du Maroc. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le Maroc. Les femmes, elles ont pris quand même. Moi,
je suis née en Algérie.
Vous êtes née en Algérie. Moi, j'ai vécu au Maroc 16 ans. Hein. Je suis là. Je suis venue ici en France. Ça fait plus de 40 ans. Ça fait 43 ans. Je suis venue à l'âge de 16 ans. Je vais régulièrement au Maroc. Et c'est vrai que ça n'a pas changé. Il y a une évolution. C'est un islam qui est toujours sunnite. L'Algérie, c'est la même chose. La Tunisie, c'est la même chose. Quand on voit à l'Arabie Saoudite, vous voyez, ça commence à changer, hein, depuis quelque temps. Il y a une évolution. Hein, c'est parce que il y a une reprise justement des textes. Il y a un gros travail qui se fait en Arabie Saoudite. Parce que quand on voit les savants, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, de faire par rapport justement, de contextualiser le Coran avec vraiment de l'exégèse qui sont plus simplifiées, c'est encourageant. Hein, c'est vraiment encourageant. L'Arabie Saoudite, c'est voilà. Mais il y a cet islam orthodoxe, il y a dans toutes les religions cette orthodoxie qu'on peut malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? C'est l'évolution. C'est l'évolution, ça vient du peuple après. C'est le peuple qui va changer. Voilà. Mais en Afghanistan, malheureusement, vous voyez, ça, c'est bien en partie. Puis maintenant, depuis les élections, ça y est, c'est la rechute, hein, depuis. Hein, malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? C'est ça dans les différentes. C'est le peuple qui doit agir. C'est le peuple qui doit choisir leur représentant. Puis évoluer.
Hein, aucune religion n'échappe à ce danger du fondamentalisme et de l'orthodoxie. Ouais. Aucune.
Alors que tous les musulmans savent que la plupart des grandes savantes qui apportaient plus de hadiths, plus de 2200, 2000, c'est la femme du prophète quand même, Aïcha, qui a apporté beaucoup de hadiths. Donc aujourd'hui, il y a comme un voile, hein, qu'on dénigre et qu'on met la femme de côté, puis la femme, voilà. Mais les textes disent autrement. C'est ça le gros danger. Si la femme ne prend pas sa place, ben l'homme, il va automatiquement la prendre. Hein. C'est aujourd'hui, c'est aux femmes de faire leur travail et puis d'évoluer. Hein. Moi, j'ai vu sur le terrain, depuis 2011 à ce jour, j'ai une grande majorité des bénévoles dans la région Occitanie. Hein, c'est pratiquement une grande majorité. Pratiquement sur 80 personnes, j'ai à peu près 80 femmes qui sont bénévoles, hein, dans la région Occitanie. Hein. Qui mènent
qui sur prennent le leur place.
Qui prennent leur place. Voilà. Parce que c'est il faut les encourager, mais aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais on ne peut pas, malheureusement. On est observateur et puis on regarde.
Agnès, tu voulais.
Oui, peut-être simplement. Ce qui me paraît intéressant, c'est de comprendre, peut-être à travers ce qu'on a pu dire les unes et les autres, que les religions, elles ne sont pas par essence fondamentalistes. Et que, comme beaucoup d'autres courants idéologiques, ça peut devenir fondamentaliste. C'est un risque, c'est un danger dans notre société de beaucoup d'autres choses que les religions de devenir fondamentaliste. Et en fait, il y a aussi, et on en a témoigné, je crois, toutes les quatre aujourd'hui, dans toutes les religions, il y a aussi tout un travail de réflexion, de recherche, d'interprétation, d'évolution qui est essentiel, à mon avis, aux sociétés, que ce soit pour les religions ou pour d'autres courants politiques, idéologiques, etc. On le voit très bien aujourd'hui avec le féminisme. Le féminisme a aussi ses fondamentalistes qui sont en train de... Et souvent, c'est ce qu'on voit, en fait. Hein. Donc, voilà, moi, je trouve intéressant d'avoir rappelé aujourd'hui que dans toutes les religions, il y a des gens qui réfléchissent et entre autres des femmes.
Si on devait, je crois que là, on a, il est 20h32, donc je crois qu'on a dépassé de 2 minutes, on n'est pas trop mal. Je crois qu'on va peut-être terminer là-dessus. La question que, avec laquelle on va partir, c'est, enfin, me semble-t-il, en tout cas moi, comment continuons-nous, hein ? Que faisons-nous ? Comment continuons-nous ? Quelle implication, quel engagement nous pouvons prendre, quelle place nous pouvons prendre. Joëlle, tu veux rajouter quelque chose avant de terminer ?
Oui, je voudrais simplement signaler que si vous avez envie de continuer à réfléchir avec nous, il y a des livres qui vous sont proposés ici. Il y a des livres de Marie-Reine et puis il y a mes propres livres. Il y a un essai sur la fin de vie parce que c'est un thème... sur lequel on peut se retrouver toutes les deux, mais il y a surtout 2 livres qui vont vous présenter les femmes de la Bible d'une manière très libérale, on pourrait dire.
Voilà,
voilà. Et un puis... roman et un livre illustré de mes icônes, parce que voilà, je suis aussi devenue à ma retraite iconographe pour avoir comment dire, cette dimension un peu contemplative, un peu de beauté, de sérénité que l'on recherche au moment de la retraite. Hein.
Et puis aussi peut-être voilà. Préciser que donc Patricia nous a préparé, on pourrait en prendre à la sortie, une bibliographie qui peut vous intéresser, vers laquelle vous pouvez vous tourner. Voilà.
Juste des lires ajoutés, excusez-moi, c'est moi qui utilise mal le micro, que si vous voulez suivre un entretien avec Joëlle qu'elle a donné à la radio, qu'il est toujours disponible en podcast sur le site de Radio FM Plus 91 FM, et que ce serait un très grand bonheur que de vous avoir aussi vous, parce que j'ai été passionnée par tout ce que vous avez dit. Voilà.
Merci.
Vous êtes les bienvenus sur l'antenne.
Merci Nathalie pour l'enregistrement. Donc, si vous...